France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Je suis un homme malade, je suis un homme méchant, un homme repoussoir, voilà ce que je suis. De toute façon, ma maladie, je n'y comprends rien, j'ignore au juste ce qui me fait mal, je ne me soigne pas, je ne me suis jamais soigné, et c'est par méchanceté que je ne me soigne pas. Évidemment, je ne saurais vous expliquer à qui je fais une crasse quand j'obéis à ma méchanceté de cette façon-là. J'ai mal au foie, tant mieux qu'il me fasse encore plus mal. Je tire ces lignes non d'une interview de Robert Kennedy, le ministre de la Santé anti-vaccin de l'administration Trump, qui vient de proposer cette semaine de laisser se développer le virus de la grippe aviaire qui circule en ce moment aux États-Unis, mais du premier paragraphe des Carnets du sous-sol de Dostoïevski, relu pour cette émission consacrée au 5e anniversaire du confinement. C'est en effet le 17 mars 2020, il y a 5 ans presque jour pour jour, que le monde s'est arrêté pour limiter la propagation du coronavirus. Et dans quelle mesure le caractère anxiogène de cette crise et son management étatique et technologique ont-ils changé le monde pour nous conduire en réaction là où nous en sommes politiquement aujourd'hui? C'est la question que nous allons essayer de discuter aujourd'hui avec, pour en parler, Marie-Estelle Dupont. Bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute, directrice de collection chez Albin Michel. Vous avez publié plusieurs livres dont « Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants » aux éditions Trénadiel. Et vous êtes venue dans cette émission pendant le confinement, en tout cas pendant la crise sanitaire. On en avait déjà parlé. Peggy Sastre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Point, vous êtes traductrice et essayiste, vous avez écrit l'année dernière « Ce que je veux sauver » chez Anne Carrière, et avant ça « La haine orpheline, comprendre la nature de nos conflits pour rester sereine dans un monde en colère ». Et Eugénie Bastier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro, chroniqueuse à Europe 1, auteur de « La dictature des ressentis » chez Plon, de « Sauver la différence des sectes » chez Gallimard, et de « La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française ». Y arriver. Alors, le Covid, c'est donc le 17 mars 2020 que le confinement a été mis en place en France. Immédiatement, les principales places européennes et Wall Street se sont effondrées, provoquant un crash boursier historique. En un mois, entre le 19 février et le 16 mars, le CAC 40 avait déjà perdu 39% de sa valeur. L'économie mondiale a été immédiatement affectée. Les activités se sont arrêtées. Et les entreprises ont perdu de l'argent, sauf les applications d'appel et les entreprises technologiques qui ont bondi. Je tire ces chiffres-là du Figaro. Le Monde, quant à lui, qui revient sur cette histoire, parle de la difficulté à trouver ses mots, à se remémorer des détails de la journée, des confusions sur la date et les jours. Il y a eu des problèmes de détérioration de la mémoire enregistrés dès 2023 en Angleterre. Il y a une étude qui montre ça. Le caractère anxiogène, en plus de l'arrêt, de l'immobilisme, semble avoir joué sur, non seulement sur les états dépressifs, mais sur même la mémoire et sur le rapport au temps. À tel point que en 2021, un sondage effectué au Royaume-Uni montrait que 55% des gens interrogés reconnaissaient avoir du mal à se souvenir à quelle date tel ou tel événement s'était produit pendant la pandémie. Et Marie-Estelle Dupont, dans votre livre, vous revenez, vous, sur les catastrophes psychiques de cet événement dans la durée. Vous montrez que dès février 80, tandis qu'on réclamait un confinement plus strict, au CHU de Nantes, la professeure Christelle Grasse-Le Guen notait des tentatives de suicide chez les enfants. À l'hôpital Robert Debré à Paris, plusieurs tentatives de défenestration sont repérées en 10 jours chez les 7-11 ans. En Haute-Garonne, les hospitalisations psy chez les moins de 18 ans quadruplent. Et en mars 2021, Angèle Consoli, pédopsychiatre, membre du conseil scientifique, indique que les hospitalisations psychiatriques des moins de 15 ans ont bondi de plus de 80% depuis le début de la pandémie. C'est quelques-uns des chiffres que vous citez.
C'est quelques-uns des chiffres que je cite. Il y en a un autre qui est très frappant, c'est que nous, on a tiré la sonnette d'alarme assez tôt, et notamment la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle quand même que les enfants ont droit à la protection, à l'accès à la santé, à l'éducation, au loisir et à la liberté d'expression. Et donc la santé mentale, qui était déjà assez dégradée depuis 2010-2015 chez les jeunes, s'est fortement dégradée avec les mesures. Et en fait, ça a été difficile de faire passer ce message parce que je pense qu'il y avait une profonde méconnaissance dans le grand public ou peut-être chez certains journalistes des spécificités du développement cérébral, qui est le cerveau est immature jusqu'à 24 ans. Et il était évident que le port du masque, par exemple, allait entraver l'apprentissage du langage. Donc on a eu des retards de parole, mais un retard de parole, ça veut dire un enfant qui entre à l'école avec des difficultés pour parler. Donc comment va-t-il apprendre à lire et écrire et supporter d'attendre, d'être assis, etc. Donc les compétences sociales, on a vu les aires cérébrales liées aux compétences sociales diminuer chez les enfants nés pendant le confinement. On a vu 299% d'augmentation des idées suicidaires et des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans. Ça, c'est le JAMA qui rapporte ce chiffre. Et moi, c'est vrai que j'avais, vous parliez de désorientation spatio-temporelle. J'ai l'exemple d'une étudiante qui est arrivée un jour, qui s'est trompée et elle m'a dit, elle en a souri devant l'absurdité. Elle m'a dit, mais je croyais qu'on était demain et elle s'était trompée de jour dans sa séance, en fait. Et parfois, la séance chez le psychologue était la seule interaction sociale de ces jeunes. Mmh. Et donc, on comprend qu'ils aient été profondément désorientés, zombifiés. Et puis, finalement, incités à des formes d'addiction contre lesquelles, avant le Covid, on essayait de lutter, et notamment les addictions aux écrans.
Aux écrans, oui. On va en reparler. Mais c'est un phénomène général, c'est pas un phénomène strictement français. Hein. Une étude irlandaise d'octobre 2022, citée par le Washington Post, que vous mentionnez dans votre livre aussi, montre que 76% des enfants nés pendant le premier confinement savaient parler avant un an, contre 90% avant la pandémie. Donc il y a une baisse nette des capacités du langage.
Bien sûr, mais parce que le langage s'apprend par imitation, et quand vous êtes confié 8 ou 9 heures d'affilée à un adulte qui porte un masque, vous ne voyez pas ses lèvres bouger, donc il est extrêmement difficile de positionner votre langue pour prononcer correctement les différentes syllabes. Donc il y avait des retards importants, et aujourd'hui on a des enfants très agressifs en maternelle. Les enfants de maternelle aujourd'hui sont nés pendant le confinement. Pourquoi sont-ils agressifs ? Parce que moins vous avez accès au langage, plus il est difficile d'élaborer votre frustration, de gérer votre impulsion, etc., votre impatience, votre impulsivité. Et donc, ces enfants sont soit dans la timidité excessive, soit dans l'agressivité complètement incontrôlable, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en mots, ils n'arrivent pas à recourir à l'imaginaire. Donc, c'est évidemment des séquelles qui sont bien après le fait d'avoir levé les mesures.
Mmh. Alors, cette génération, enfin, les enfants qui ont pris de plein fouet le Covid, c'est aussi la génération que les essayiste Jonathan Haidt nomme la génération anxieuse dans le livre qui est sorti Les Arènes ces temps-ci, c'est-à-dire la génération Z, celle qui a pris de plein fouet la révolution technologique des années 2010. Eugénie Bassier, vous avez chroniqué le livre.
Oui.
Allons-y.
Oui, tout à fait. Alors, il faut noter que Jonathan Haidt considère que voilà, le bouleversement majeur qui est arrivé à cette génération Z, c'est avant tout le numérique et cette révolution technologique, puisque c'est la première génération qui a été éduquée intégralement avec le smartphone et qui a vécu vraiment toute sa jeunesse, toute son adolescence avec cet outil et avec cette connexion au monde. Et ça, c'est un bouleversement majeur, je pense, encore beaucoup plus fort que le Covid. Et selon lui, ça crée une extrême anxiété chez les jeunes. Il note que nous, alors que même que nous surprotégeons les jeunes dans le monde réel, nous les sous-protégeons dans le monde virtuel. Et c'est un peu à ce à quoi on assistait pendant le Covid, puisqu'on a effectivement surprotégé la jeunesse qui n'était pas victime prioritairement du virus, et on l'a laissé se plonger dans le numérique, et avec une virtualisation également de l'école, mais de tous les rapports sociaux, qui a laissé des traces, notamment par exemple sur l'addiction de certains jeunes à des jeux vidéo, par exemple, qui a été accentuée pendant la période de la pandémie, dont on a de nombreux témoignages. Et donc il note que ça a des conséquences réelles, c'est l'effondrement psychologique de cette génération avec des multiplications des cas de dépression, plus 160% de cas de dépression chez les jeunes hommes et jeunes femmes, avec un caractère plus marqué encore chez les jeunes filles, puisqu'elles se comparent énormément sur les réseaux sociaux, explosion des cas de dépression, explosion des cas d'automutilation, explosion des cas de suicide, et effectivement tout ça a été accéléré et aggravé aggravé par la pandémie, qui a occasionné un décrochage scolaire, une virtualisation des rapports. Et l'un des impacts majeurs des réseaux sociaux et du smartphone, c'est aussi la privation de contact des jeunes, ce que montre Jonathan Haidt dans son livre, c'est qu'ils se voient beaucoup moins qu'auparavant, que dans les générations précédentes. Ils se voient physiquement beaucoup moins. Et effectivement, pendant le Covid, ça a été une évidence. Il y a eu une privation. Ça a accentué ce caractère. Et juste pour revenir sur un jugement global sur ce confinement, je pense qu'il faut dire aujourd'hui les choses telles qu'elles sont. Nous avons assisté pendant ce confinement à effectivement quelque chose de très simple, c'est-à-dire le sacrifice de la jeunesse pour sauver les plus âgés, qui étaient aussi les plus faibles et les plus sensibles au virus. Alors on peut dire que c'est un progrès civilisationnel, mais c'est aussi le signe d'un vieillissement des sociétés occidentales, avec un caractère plus marqué d'attention envers les plus âgés que vers les plus jeunes. Et moi, j'ai trouvé assez dérangeant à cette époque, et même encore aujourd'hui, un discours qui pointe l'égoïsme de la jeunesse, qui pointe finalement le caractère paresseux même de la jeunesse, et sans voir quand même ce sacrifice qu'on a exigé de nos jeunes pendant le confinement et qui traduit, selon moi, un déséquilibre générationnel global de notre société où, effectivement, la politique est orientée en faveur des plus âgés. Alors, on peut dire que c'est un progrès, mais n'oublions pas quand même ce qu'on a demandé aux jeunes pendant ce moment.
Alors, ce que dit Jonathan Haidt, c'est que les membres de la génération Z sont les cobayes d'une éducation totalement inédite, loin des interactions tangibles entre petites communautés au sein desquelles les humains ont évolué jusque-là. Il appelle ça le grand recablage de l'enfance. Oui. Il y a deux moments clés, d'après lui. En 2009, la naissance des boutons like et retweet sur les réseaux qui transforment la dynamique sociale dans le monde connecté. Et en 2010, l'innovation qui va révolutionner le rapport au monde, c'est-à-dire la tendance à poster des images de soi en ligne et qui ne va ne faire que croître ensuite. Et enfin, un troisième point, la tendance parentale à la surveillance permanente des enfants par le téléphone quand ils sont à l'extérieur.
Je veux dire juste un mot. Quand on pense que mai 68 a été déclenché par le fait que une interdiction des jeunes hommes de se rendre dans les dortoirs des jeunes filles, on se dit quand même la jeunesse est particulièrement docile parce qu'on l'a imposé pendant le confinement à toute une génération qui n'a rien dit, rien fait, qui ne s'est pas révolté du tout, qui a obéi en fait de façon très docile. On voit bien quand même il y a un décalage de génération.
Alors on va voir justement si c'est aussi docile que ça, parce que c'est précisément le sujet de cette émission. Peggy Sastre, sur le livre de Jonathan Haidt, le fait qu'à partir de 2010 quelque chose a changé dans la santé mentale des jeunes, écrit Jonathan Haidt, les troubles anxieux, ce que disait Peggy Sastre, anxieux et dépressifs ont explosé, plus 145% de cas de dépression majeure chez les adolescentes américaines depuis 2010, plus 161 pour les jeunes hommes et plus 140% chez les jeunes adultes de 18-35 ans. Le taux de suicide des adolescents a commencé à augmenter à partir de 2008. En d'autres termes, quand le confinement a frappé, la génération Z était en quelque sorte préformée pour ce malaise.
Oui, absolument, mais j'aurais tendance, pour le coup, alors que je suis une fan assez inconditionnelle de Jonathan Haidt, là-dessus un peu le tempérer, parce qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs et d'études qui, quand le livre est paru, sont un peu montés en créneau pour dire qu'il y avait quand même pas mal de données contradictoires à ces affirmations. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais sortir un peu de la société américaine pour parler de la France, parce qu'il y a un rapport, une grosse étude qui est sortie en septembre 2022, je crois me souvenir que c'était Erwan Seznek qu'on avait parlé dans le point. En fait, il y a eu une baisse massive des suicides, et notamment chez les jeunes après les confinements. Là je reviens sur l'article. Donc c'était le sociologue Christian Baudelot qui disait qu'en 2021 le taux de suicide était à son plus bas niveau historique depuis un siècle, et il disait la période Covid aura sans doute des répercussions psychologiques à moyen terme, mais elle a fait reculer les suicides en créant du lien social comme l'avaient fait les deux guerres mondiales avant elle. Et ça c'est sûr que c'est un phénomène Déjà, il faut partir du principe, évidemment, les épidémies, les pandémies, ce sont des phénomènes excessivement bouleversants pour les sociétés, mais ce qu'on voit aussi, c'est que justement, il y a les crises ont tendance à atténuer les problèmes psychologiques, etc. Parce que justement, la crise pousse au lien social, à ce genre de choses. Et là, voilà, ce rapport était assez édifiant sur le fait que les suicides baissaient. Et contrairement à ce qu'avance Jonathan Haidt, mais je voudrais aussi finir là-dessus, les réseaux sociaux, comment dire, c'est pas noir et blanc, quoi. Ça permet aussi à des enfants qui, dans la vraie vie, auraient beaucoup de mal à se créer des liens, à se retrouver entre communautés d'intérêt. Je veux dire, on a parlé rapidement des jeux vidéo. Pareil, les jeux vidéo, c'est pas blanc et noir. Et ce que Jonathan Haidt dit, enfin, je ne sais pas si c'est dans le livre, en tout cas, il le disait avant qu'il sorte le livre, parce qu'il faut aussi se rappeler que la génération donc à 10-15 ans, en 2010-2015, c'est aussi la génération, et ça c'est propre aux États-Unis, enfin comment dire, c'est pas propre aux États-Unis, mais c'est surtout très marqué aux États-Unis, c'est la génération des qui sont, comment dire, c'est aussi les conséquences du 11 septembre et des restrictions des libertés post 11 septembre, et ça aussi je pense que c'est un facteur très important.
La génération plus âgée déjà, parce que là on parle de la génération Z, c'est celle qui est née aux alentours de 95.
C'est des enfants qui sont arrivés, ouais. Voilà, qui sont arrivés à l'adolescence, ce qu'on disait très bien, voilà, sur le développement cérébral, etc., à une époque de peur exacerbée liée au 11 septembre.
Marie-Celle Dupont.
Sur la baisse des suicides, en fait, elle a été observée pendant les confinements, parce que quand vous êtes confiné de manière stricte, il est extrêmement difficile de se défenestrer ou de se pendre quand la famille est là. Et ensuite, il y a eu un rebond au moment des déconfinements. Donc, on observait les passages aux urgences pour gestes suicidaires. Hein, le Santé publique France publiait des rapports hebdomadaires.
On a cité là.
D'augmentation des passages aux urgences. Effectivement, après, parce que le moment du confinement, c'est une sorte de contention artificielle qui fait qu'on ne peut pas se suicider à la maison s'il y a tout le monde est dans 60 mètres carrés. Mais il y avait effectivement un effet rebond. Après, on dit toujours c'est après la guerre qu'on compte les morts. Et effectivement, après les mesures les plus contendantes, il y avait des rebonds.
Les chiffres que j'ai cités là sont des chiffres de mars 2021.
Mars 2021, mais on a été confinés en mars 2020.
Ouais, effectivement.
Et l'autre chose importante à souligner, c'est que je crois que sur le plan du développement cérébral, on n'a pas mesuré à quel point pour des petits-enfants et pour des adolescents, le fait de faire concrètement, dans le monde concret, dans le monde réel, faire du sport, fabriquer, écrire et pas être derrière un ordinateur, et on ne l'a pas constaté parce qu'effectivement, avec la virtualisation antérieure que tu décrivais de la vie, on était préparé à ça, on ne mesurait pas que le cerveau ne se développait pas de la même manière. Et moi, j'avais été choquée par le marketing d'une entreprise privée qui disait l'enseignement est distanciel, mais les progrès sont réels, ou quelque chose comme ça. C'était extrêmement choquant parce que ça, vraiment, c'était nier toutes les études neurobiologiques qui montrent qu'il faut engager les cinq sens, il faut engager le corps dans l'apprentissage.
Alors, on va avancer un peu. Il n'y a pas que la technologie qui vient impacter la situation. Il y a aussi toute la politique du confinement elle-même, c'est-à-dire que en particulier en France, ce qu'on appellera le nudge, et toute la politique de gestion des corps par l'État de la crise. Le nudge, c'est quelque chose que nous, on avait fait une émission à Signe des Temps. On avait invité Eric Singler, le directeur général de l'Institut BVA, en charge de la BVA Nudge Unit à l'époque, qui était le père français du nudge, qui avait expliqué dans l'émission que les autorisations de sortie, par exemple, étaient rédigées dans un style volontairement alarmiste. Et le nudge, c'est ça. Vous citez Marie-Estelle Dupont, vous citez Roland Gori, le professeur émérite de psychopathologie qui, dans son livre « La fabrique des servitudes, nos servitudes ou le lien qui libère », définit le nudge comme ça. Il s'agit de conduire les individus à décider de faire par eux-mêmes le choix que l'on attend d'eux. La perversion sociale à laquelle parvient le nudge est de faire croire aux gens qu'ils sont libres pour mieux les manipuler. C'est-à-dire que c'est une série de petits petits gestes,
de petits entonnoirs
qui font que
j'appelle
les gens...
ça des entonnoirs psychiques, moi, voilà, pour les gens qui comprennent pas le nudge.
Voilà.
Ils sont incités par des petits coups de coude successifs à faire le choix qu'on attend d'eux, parce que vraiment, sinon, ils auraient honte de faire l'autre choix. Et ça, on l'a vraiment beaucoup vu dans la gestion très bureaucratique, très centralisée de la crise sanitaire. Et je trouve que dans La fabrique de nos servitudes, finalement, le constat de Roland Gori, qui est psychanalyste, rejoint finalement un constat fait beaucoup plus tôt par Milhaud sur les démocraties populaires d'Europe, sur la notion de gestion...
Hein, qui est le poète prix Nobel de littérature.
Oui, précise, polonais, qui parlait des démocraties populaires d'Europe et qui dit bien, finalement, la gestion de la population, elle va se faire, non pas par une censure qui interdit, mais par une censure qui empêche, qui va invisibiliser certaines parts de la réalité, qui va empêcher de penser certaines choses, et même qui va vous faire vous sentir mal si vous choisissez une certaine voie. Et alors là, on en a eu mille exemples, et notamment quand on nous disait qu'il fallait pas que les chiffres ne se discutaient pas, on est arrivé au paroxysme d'une gestion algorithmique de la population, où finalement, si le chiffre domine, je ne peux pas parler, je ne peux pas penser, je ne peux pas débattre, ma subjectivité est niée, voire même penser est vue comme dangereux, c'est-à-dire le délinquant c'est celui qui pense, et c'est les chiffres qui font la loi, donc dans une logique très binaire, très violente, très on-off.
Génie Bastier, ensuite Peggy Sastre qui demande la parole.
Oui, moi je crois ce à quoi on assistait pendant cette période très, très intense, c'est une espèce de conflit entre le savant et le politique, c'est-à-dire qu'on a eu à la fois une politisation de la science et une scientificisation des décisions publiques qui s'abritaient derrière justement la science pour faire des choix qui étaient des choix politiques, c'est-à-dire effectivement qui on protège en priorité, quel est le degré de liberté octroyé aux citoyens, et ça a eu des terribles conséquences à la fois sur le politique et à la fois sur la science. Une défiance, je pense, envers la science qui est due au fait que effectivement, il était normal à cette époque de ne pas savoir ou d'hésiter. Il était normal que le consensus scientifique se fabrique. Oui. Mais il y a eu tout de suite des affirmations très, 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 très indubitables. Par exemple, souvenez-vous, certains scientifiques refusaient qu'on émette l'hypothèse que le virus avait été échappé d'un laboratoire. Et d'ailleurs, Facebook avait dû censurer toutes les nouvelles allant dans ce sens, et Mark Zuckerberg justement il y a quelques temps a dit, je crois que c'était l'été dernier, qu'il regrettait d'avoir mis en place cette censure, parce que maintenant aujourd'hui c'est une hypothèse parmi d'autres, on ne sait pas, mais la CIA dit c'est une hypothèse parmi d'autres que le virus soit sorti de laboratoire, mais à l'époque le dire c'était être complotiste. Et donc on voit bien à quel point la science était en train de se fabriquer. Il y avait effectivement des débats scientifiques, mais tout de suite elle a été politisée, et je pense que ça a eu un impact énorme dans la défiance envers les autorités scientifiques et dans la défiance envers le politique, parce qu'effectivement il y a eu des errements qui étaient sans doute justifiables, mais qui ont été faits avec une assurance. Quand on nous disait au début de la pandémie que le masque ne servait à rien parce qu'on n'avait pas de masque, quand le président de la République est allé voir Didier Raoult à Marseille, pour ensuite on nous a dit que Didier Raoult était ce qui était le cas d'ailleurs, un imposteur, mais forcément pour les gens, enfin il y a de quoi devenir effectivement sceptique ou défiant, puisque les discours se sont superposés avec une assurance. On aurait dû dire à l'époque, je pense en tout cas, qu'on ne savait pas que tout était en train de se construire, que le doute était possible, que le débat était nécessaire, parce qu'en fait, ça a eu des conséquences graves, je pense.
Peggy Sastre.
Ah oui, là, je suis absolument d'accord avec ça, et là, je suis en train de... Je vous donne en exclusivité mondiale le thème de mon édito dans le Point de la semaine, c'est autour d'un livre qui s'appelle The Weaponization of Expertise, qui vient de sortir aux presses du MIT, donc c'est pas n'importe quoi. Deux professeurs de droit qui sont tout à fait solides, Jacob Hale, Russell et Denis Patterson. Et en fait, justement, dans ce bouquin, ils analysent en fait le rôle politique et social à partir de ce qui a été fait et mal fait pendant la pandémie, donc le rôle politique et social, justement de l'expertise dans les démocraties contemporaines, et effectivement comment l'expertise, quand elle est instrumentalisée, et eux ils disent c'est encore plus fort, que c'est quand l'expertise devient une arme, quand elle devient une arme pour les élites, et ça devient un levier d'exclusion démocratique, et effectivement un facteur de polarisation politique et de montée des des populismes. Et dans ce bouquin, à mon sens, le point le plus fort, c'est comment est-ce qu'ils analysent, comment est-ce que l'expertise devient un outil d'exclusion démocratique. Mm-hmm. Donc là, on se rappelle dans la pandémie, voilà les décisions publiques, que ce soit le confinement, le fermeture des écoles, le pass sanitaire. Donc, ont été justifiées par des paroles d'experts et effectivement au point de marginaliser toute contestation et de les présenter comme irrationnelles, dangereuses, complotistes, ouais, etc. Et en fait, on a verrouillé le débat. Et ce que ces deux juristes analysent et développent très bien, c'est que en fait, c'est pas comme ça que la science fonctionne. La science crée pas des orthodoxies, crée pas des dogmes. C'est une remise en question permanente. La méthode scientifique, de manière très fondamentale, c'est essayer de prouver qu'on a tort. Mmh. Et donc c'est sûr que là-dessus, ça a été désastreux. Pas la pandémie, mais la gestion politique de la pandémie, on est arrivé à une espèce de tyrannie intellectuelle et dont on paye effectivement aujourd'hui les conséquences. Ouais. The Christ had 12 apostles, three led away. He said, watch for me 1 hour while I go yonder and pray. And tell me who's that writing. Tell me who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven
Marie-Estelle Dupont, on va aborder maintenant la question des conséquences politiques de cette dynamique. Vous citez dans votre livre Czesław Miłosz, j'arriverai jamais à prononcer son nom, le poète polonais et dissident Nobel de littérature, et qui dit « Il est rare que l'on parle des motifs métaphysiques qui peuvent provoquer chez un homme un changement complet d'opinion politique. De tels motifs existent cependant et peuvent être observés chez les êtres les plus sensibles et intelligents. » Et la question est de savoir si c'est pas à quelque chose comme ça qu'on a assisté dans la suite du Covid, c'est-à-dire que le confinement, tout ce qu'on vient de dire, le mélange de technologie, de contrôle social par l'État, de contrôle des corps et de l'intimité par l'État, les ambiguïtés entre ce qui était de la science et ce qui n'en était pas, ce qui était de la politique et ce qui n'était pas de la science, tout ça a provoqué un certain nombre de réactions. En particulier dans cette jeunesse qu'on appelle la génération Z, qui a pris plein fouet cette évolution.
Oui. Alors, quand il le dit à propos des démocraties populaires d'Europe, en disant, mais en fait, le régime est très puissant dans son narratif. Il y a une sorte d'ostracisation de celui qui ne récite pas la liturgie. Et il y avait un peu une liturgie Covid. Hein. Il dit, moi, en dernière intention, ce qui a fait que j'ai fini par ne pas adhérer, à ne pas être celui qu'on voulait que je sois, c'est l'affect. Il y a eu un point de résistance. Il dit, il y a eu un point de résistance affectif, charnel en moi, qui me faisait sentir, en fait, il parle de l'intuition, que je ne pouvais pas être celui qu'on me demandait d'être. Donc, j'ai continué à faire de la poésie et je suis devenue un dissident. Et en fait, je crois qu'il parle de quelque chose de très important, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes se sont trouvés pris dans une telle sidération par la peur où rien n'était questionnable, mais au même moment, tous les repères du quotidien volaient en éclats, hein, avec des fermetures brutales de classe, etc., etc., les repères spatio-temporels, les repères de la pensée, du travail, etc., qu'ils ont été un peu dissociés de leur besoin. Moi, ce que je disais un jour, c'est on les a mis dans une injonction paradoxale. On leur a demandé, pour être des bons citoyens, de renoncer à tout ce qui était nécessaire pour devenir un adulte équilibré et mature. Distinguer le besoin et le désir, sortir de chez soi, faire du sport, se confronter à ses pairs, accepter de ne pas être le meilleur tout le temps, etc. etc. Et donc, je pense que pour beaucoup de jeunes, cette confusion des places, comme vous dites, où l'État devient le médecin, où l'école devient le flic, le restaurateur devient le flic, l'école devient à moitié une infirmerie, ça les a finalement un peu effondrés au niveau de la confiance à laquelle ils avaient besoin de s'accrocher dans le monde adulte et dans la parole adulte. Et que ce soit le visage des politiques, le visage des médecins, le visage parfois aussi des enseignants, ils ont pris un sacré coup. Parce que ce qui est intéressant, c'est de constater que les 18-24 ans, ce sont les plus sous psychotropes, les plus violents, les plus déprimés, les plus anxieux, mais ce sont aussi ceux qui votent le moins. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement une sorte de perte de possibilité de s'identifier et d'accorder crédit à la parole, avec finalement de la difficulté à discerner quand est-ce que la parole est quand même vectrice de raisonnement et de vérité et quand est-ce que la parole n'est qu'idéologique. Et du coup, pour certains, il y a un effondrement, on lâche tout. Et pour d'autres, il y a un basculement dans une radicalité extrême des discours, que ce soit d'ailleurs discours religieux, politique, militantisme écologique poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir du mal à débattre et ils sont un peu dans une hystérie où si on n'est pas d'accord avec eux, ils veulent pas argumenter, ils veulent juste éliminer la personne qui est en face parce que c'est intolérable. Et ça, c'est vraiment une crise pour moi de la démocratie et de la politique, qui est aussi accentué, à mon avis, par la baisse de l'instruction générale. C'est-à-dire que moins les enfants sont instruits, évidemment, plus c'est dur de débattre.
Vous dites dans votre livre que, d'ailleurs, vous retrouvez par hasard, je suppose que c'est par hasard, une des dernières phrases de Helena Bonheur, la veuve de Andrei Sakharov, le dissident soviétique. Vous écrivez que ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'est le pire du socialisme et le pire du capitalisme mêlés. Et c'est ce qu'avait dit Helena Bonheur à propos du 21e siècle.
Et ben je vous remercie de me l'apprendre parce que je ne le savais pas du tout, mais je disais qu'on avait marié un peu le pire du néolibéralisme avec le pire du communisme dans cette crise. Et
pour Helena Bonheur, c'était le 21e siècle. alors oui, effectivement, ils votent le moins, cette génération vote le moins, et quand elle vote, ça peut être effectivement du côté des plus grandes radicalités. Un sondage anglais fait par Channel 4 vient de révéler que 52% des 13-27 ans en Angleterre souhaitent voir un homme fort à la tête de l'État. Ils ne sont pas les seuls, puisque aux États-Unis, toute la question qu'on va essayer de discuter maintenant, c'est de savoir de quelle mesure ce qui s'est passé à ce moment-là a joué un rôle dans la défiance vis-à-vis de la science, dans la montée du complotisme et finalement dans l'arrivée de Robert Kennedy au ministère de la Santé, comme je disais au début. Peggy Sastre, vous voulez intervenir?
Oui, juste rappeler, que oui, une pandémie, c'est un facteur, c'est un vecteur de bouleversement général, indépendamment des réponses politiques qui peut y avoir. Et je voudrais aussi donc toujours en me référant au livre dont je parlais tout à l'heure, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette hausse des radicalités et ce qu'on appelle assez généralement le populisme. C'est pas forcément, et contrairement à ce qu'on entend souvent, un rejet irrationnel ou brutal de la science. Et au contraire, ce que développent ces deux auteurs, c'est que ça peut être vu comme une réponse lucide en fait et rationnelle à une expérience sociale partagée. Donc la pandémie et surtout dans les réponses politiques à la pandémie, le fait d'avoir été exclu du débat démocratique au nom de l'expertise, et c'est effectivement ce qu'on a vu pendant la pandémie. Et encore une fois, je rappelle que c'est des tendances qui ont commencé avant et qui se voient c'est très universel dans l'histoire de l'humanité. Il y a une manière d'instrumentaliser la science qui n'est pas là pour éclairer les choix collectifs, mais pour imposer en fait des décisions sans discussion. Donc voilà le message, oui. On l'a dit tout à l'heure, c'était taisez-vous, les experts en parlent. Et voilà, et pour finir là-dessus, Oui. Pour finir là-dessus, c'est que contrairement à une certaine caricature, le populisme, ça ne naît pas forcément d'un rejet irrationnel de la science, mais en fait d'un sentiment de dépossession. Comme on l'a fait là aux citoyens des décisions au nom d'une science, ressentiment augmente.
L'un n'empêche pas forcément l'autre. Hein. Oui, Eugénie Bastier.
Oui, non, moi ce qui me frappe, c'est à quel point... le monde dans lequel nous sommes 5 ans plus tard est différent de celui qu'on avait prévu pendant la pandémie, parce que souvenez-vous, il y avait des discours extrêmement naïfs et utopiques. On avait ces pétitions de grandes stars qui disaient le monde d'après sera plus écologique, plus inclusif, plus solidaire. C'était le retour de l'État dans l'économie, le souverainisme. Aujourd'hui, on voit bien que c'est... Alors, Houellebecq avait eu cette phrase à l'époque que j'avais trouvé très drôle. Il avait dit ce sera la même chose mais en pire, après le confinement. Le monde d'après. Et ces grands discours sur le monde d'après, ils ont effectivement été battus en brèche. On pensait d'ailleurs aussi que le populisme serait disqualifié parce que le Covid avait donné la prime à la compétence, à l'expertise. Et d'ailleurs, Donald Trump avait été accusé d'avoir très mal géré la pandémie. Et c'est une des raisons de sa défaite en 2020. Ce dont on s'aperçoit 5 ans plus tard, c'est que au contraire, il y a une sorte de backlash libertarien suite à cette espèce d'entrisme de l'État dans la vie, dans des gens, dans ces mesures extrêmement liberticides, ces confinements. Eh bien, ça a redonné vie finalement au mouvement libertarien qui était complètement moribond. On peut souligner par exemple que quelqu'un comme Elon Musk s'est radicalisé pendant le confinement, puisque quand on a fermé ses usines Tesla, c'est le moment où il a vrillé, il a commencé à très très critique envers l'État, qu'il a commencé à cesser d'être démocrate pour se tourner plutôt vers les républicains. Quelqu'un comme Javier Milei en Argentine aussi a commencé à apparaître de façon sur la scène publique à ce moment-là parce qu'il dénonçait les mesures de confinement. En France, on a eu par exemple des gens comme David Lisnard qui mettait en cause l'absurdistan sanitaire. Et donc c'est intéressant de voir que cette espèce d'afouérisme, pour reprendre l'expression de Javier Milei, afouera, ça dégage en parlant de l'État. L'afouérisme est un peu comme le retour de balancier du covidisme 5 ans plus tard, après un étatisme exacerbé, une espèce de désir d'anti-étatisme, de critique de l'État et une revendication des valeurs de liberté qui était un peu moribonde. Souvenez-vous, le libéralisme à ce moment-là était moribond. Ce qui avait le vent en poupe, c'était l'écologisme, c'était même un populisme plutôt socialisant. Et aujourd'hui, moi, ce qui me frappe 5 ans après, c'est qu'on a ce retour de la liberté comme thème politique
qui avait existé. Mais à quel prix ? Parce que on se rend compte que aux États-Unis en particulier, les États-Unis sont le pays qui, semble-t-il, a été le plus affecté en fait par le nombre de morts pendant le Covid, et aussi celui où les manifestations de censure ont été les plus prégnantes, comme vous le disiez tout à l'heure, l'interdiction de la censure vis-à-vis de d'où vient la pandémie, l'interdiction de dire que ça pouvait venir du laboratoire de Wuhan, des choses comme ça.
Et c'est ce qu'ont fermé le plus les écoles.
Et bien sûr.
Comme
et
quoi.
Et puis ça a coïncidé aussi avec le premier mandat de Trump, le meurtre de George Floyd.
Ah, ça, on n'a pas parlé, mais.
Et on n'a pas parlé, mais
je pense quand même il faut se souvenir, en juin 2020, meurtre de George Floyd, manifestation monstre dans toutes les sociétés occidentales, notamment en France, on a des politiciens qui se mettent à genoux pour la mort de George Floyd. Et y avait quelque chose de quasiment cathartique et pathologique dans cette espèce d'émotion mondialisée qui, pour moi, était un revers du confinement où, effectivement, cette jeunesse avait été alimentée de certains discours en vase clos pendant la pandémie. Et c'est une espèce d'explosion idéologique complètement irrationnelle le pic du wokisme à la sortie de la pandémie.
Ce qui se passe aujourd'hui, en réaction, en quelque sorte, c'est que cette emphase sur la liberté peut aller très loin. Les reportages qui viennent des États-Unis, en particulier sur les jeunes Trumpistes, montrent qu'il y a un engouement croissant pour la frange la plus radicale du Trumpiste, celle qui se retrouve autour d'Andrew Tate, qui est en train de devenir en ce moment une des figures clés du mouvement MAGA, et puis un certain nombre d'influenceurs du même genre. On sent qu'il y a cette chose qui affleure comme ça de la liberté, ça veut dire pouvoir tout dire et pouvoir tout faire, et faire ce que je veux quand je veux, et rien ne compte.
Alors, c'est-à-dire que c'est une définition adolescente de la liberté, c'est la liberté vue comme absence de contrainte, alors.
Marie-Celle Dupont.
On sait bien que, enfin, nous qui avons des enfants en bas âge, on sait bien que les éduquer à la liberté, c'est justement leur apprendre à tolérer certaines contraintes pour que la liberté, ça s'exerce, en fait. C'est pas pouvoir tout faire, etc. Je pense qu'il y a deux phénomènes psychiques qu'il faut rappeler.
Il y a une forme de narcissisme pathologique qui est en train d'émerger.
Oui, mais parce qu'il y a une difficulté des identifications saines qui font grandir. C'est-à-dire que d'abord, quand vous avez des interdits structurants qui sont remplacés par des coercitions très infantilisantes, enfin, moi j'avais mal au cœur quand je voyais des gamins qui devaient rester dans un trait tracé à la craie dans les cours d'école et qui se faisaient scotcher le masque sur le nez par des maîtresses un peu trop zélées. Donc là, on a remplacé les figures d'exemplarité d'autorité devenaient coercitives, infantilisantes, et donc on faisait plus la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. C'est une première chose. Donc trop de contraintes à un endroit, la psyché collective, elle fonctionne comme la tectonique des plaques. Quand vous resserrez trop un endroit, ça explose après. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous construisez, où vous avez déjà naturellement cette crise identitaire de l'adolescence qui est normale, si en plus, il y a une crise de tous les repères à côté, que même vos parents vont mal ou qu'ils sont perdus, qu'il y a une hystérie généralisée partout, il va y avoir une recherche un petit peu régressive de rentrer dans une sorte de matrice un peu réconfortante qui peut être un discours sur les réseaux de radicalisation islamique, qui peut être un autre discours militantiste, quel qu'il soit. Et peut-être que chez ceux qui voient Trump comme le sauveur du monde, il y a ce besoin de se trouver une sorte de figure paternelle, pour le dire grossièrement, qui leur éviterait la détresse, qui leur éviterait la difficulté face à laquelle cette génération se sent impuissante. Parce que moi, je le répète, cette génération qui n'entend parler que de crise économique, climatique, géopolitique, sanitaire, c'est forcément une génération qui n'est pas anxieuse qu'à cause des écrans, qui est anxieuse aussi parce qu'on a du mal à lui donner des occasions de se faire confiance et de croire qu'elle peut faire quelque chose face aux défis qui l'attendent. Donc du coup, il y a une régression, il y a une envie de penser qu'il y a quelqu'un, l'État nounou, le sauveur, le messie, qui va nous apporter un salut de l'extérieur, alors que on sait bien que les êtres humains, on se sauve tout seul et c'est pas quelqu'un d'extérieur qui nous sauve.
Peggy Sastre, très vite, parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Oui, c'est pour rebondir sur le fait que la réaction justement n'est pas irrationnelle. Je veux dire la gestion technocratique de la pandémie a semé les graines en fait d'une espèce de dégradation totalement profonde et durable de la confiance envers les institutions et il faut se rappeler que l'expérience de la pandémie c'était la maladie mais c'était aussi l'incohérence, manipulation et l'hypocrisie des autorités publiques, des injonctions complètement contradictoires. On en a parlé au début de l'émission, mais les autorisations de sortie, c'est un truc, on en paye encore les conséquences, quoi.
Oui, tout à fait. Mais effectivement, l'un n'empêche pas
l'autre. Et avec aucune reconnaissance des erreurs, pas de pédagogie et aucun espace de contestation légitime, outre qu'on dit c'est complotiste.
On va devoir s'arrêter ici. Mon réalisateur m'a fait de grands signes. Merci à toutes les trois.
Sick everywhere. It was influenza epidemic, and it floated through the air. Wait until I've got done warning. Jesus coming soon. Wait until I've got done warning. Jesus coming soon. The doctors they got troubles, and they didn't know what to do. They gathered themselves together and they called it the Spanish flu.
Voilà, une chanson sur la grippe espagnole pour finir cette émission. Merci à toutes les trois. Merci Eugénie Bastier. Je rappelle le dernier livre, La dictature des ressentis chez Plon. Merci Peggy Sastre, Ce que je veux sauver chez Anne Carrière en 2024, l'année dernière. Et merci Marie-Estelle Dupont, votre dernier livre, Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants, sorti en 2023. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay. avec la technique d'Alia, pardon, je n'entends rien, et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.
From the evil eye and seek the Lord and pray.